débat de midi, mais non, c'est bien Grand Bien Vous Fasse aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, et donc bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse. Quel est le point commun entre Annie Ernaux, Éric Dupond-Moretti, Omar Sy ou, plus loin de nous, Miss Tinguette et Édith Piaf ? Toutes et tous ont quitté leur milieu social pour un milieu supérieur. Issus de familles pauvres ou de la classe moyenne, ils se sont retrouvés dans ce que les sociologues appellent les CSP+. Ici, la fille d'un maçon et d'une femme de ménage qui entre à Sciences Po. Là, le fils d'un conducteur de bus et d'une secrétaire qui fait l'école normale supérieure avant de devenir tous deux écrivains et journalistes. Si les itinéraires pour y arriver sont complexes et nécessitent une sacrée force de travail, le bout du chemin n'a rien d'un long fleuve tranquille. Entrer dans un autre monde ne va pas de soi, il faut savoir endosser de nouveaux habits, au figuré comme au propre, et vivre en permanence dans deux univers. Et puis, une autre question se pose, comment échapper à l'exemple qu'on devient fatalement pour montrer l'existence d'une prétendue méritocratie, alors qu'il s'agit surtout d'une exception qui confirme la règle, la France restant championne en matière d'inégalité scolaire. On attend vos commentaires, vos réactions, vos témoignages aussi, au 01 45 24 7000, vous pouvez également écrire et même laisser des notes vocales sur l'appli de France Inter. Merci d'être avec nous ce matin. Grand bien vous fasse, c'est le mode d'emploi de la vie quotidienne.
France Inter, Thomas Chauvineau, grand bien vous fasse.
Et trois invités pour évoquer aujourd'hui ces transfuges de classe qui sont eux-mêmes des transfuges de classe. Bonjour Nesrine Slaoui.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Ben, merci à vous d'être là. Vous êtes journaliste, jeune diplômé de Sciences Po et vous venez de publier Illégitime chez Fayard cette année. Bonjour Chantal Jacquet.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, vous venez de publier En passant, juste en passant, au PUF, un livre qui raconte votre voyage d'un univers à l'autre. Et puis surtout, vous êtes la première philosophe, en tout cas, à avoir théorisé cette notion de transclasse. On y reviendra évidemment au cours de l'émission. Et bonjour, Adrien Nasselli.
Bonjour.
Vous êtes journaliste également. Vous venez d'écrire « Et toi, tes parents, ils font quoi ?» C'est aux éditions Lattès, un livre dans lequel vous donnez la parole à une dizaine de transfuges et à leurs parents. Et sur la couverture duquel, d'ailleurs, les auditeurs de France Inter reconnaîtront sûrement le petit Ali Rebéi, puisqu'il fait partie avec sa mère des hommes et des femmes que vous avez interviewés. Alors, il y a trois livres que je viens de citer. On peut aussi parler du livre de Sébastien Le Foll, publié également là assez récemment, Reste à ta place, qui sera d'ailleurs l'invité de la matinale de France Inter ce week-end, mais aussi le livre d'Édouard Louis. Il y a énormément de littérature autour de cette question de transfuge de classe. Pourquoi cet intérêt en ce moment, selon vous, Chantal Jacquet ?
Bien, disons que c'est le résultat d'un travail entrepris depuis de longues années pour rendre visibles les invisibles, d'une certaine façon, et sortir peut-être des témoignages particuliers, isolés. Il y a beaucoup de personnes qui, à la suite de travaux et d'enquêtes sur les transfuges de classe, ou ce que j'appelle les transclasses, ceux qui changent de classe sociale, se sont sentis de ce fait autorisés à prendre enfin la parole pour essayer de faire comprendre leur parcours et puis éviter d'être récupérés d'emblée comme des exemples de méritocratie. Mmh. Donc montrer un peu la complexité des parcours et les singularités, et ça c'est vraiment précieux dans la diversité bien évidemment. Et le respect des trajectoires de chacun.
Nesrine Slaoui, qu'est-ce qui vous a poussé, disons, à raconter votre histoire ?
D'abord, c'est parce que j'en ai beaucoup lu. J'ai lu Annie Ernaux, j'ai lu Didier Ribon, j'ai lu Édouard Louis. Et en fait, ce qui m'a manqué, c'est mon identité aussi ethnique, c'est-à-dire que je ne me reconnaissais pas forcément dans le fait que moi, je suis maghrébine et que j'avais aussi besoin, en fait, de lire des récits de personnes issues de l'immigration parce que cette dimension-là, elle est très importante. Et je pense qu'en fait, le fait de se raconter, de raconter ce parcours-là social, c'est aussi une volonté de mettre fin à la honte sociale et donc au mépris. C'est-à-dire que c'est assumer qui on est pleinement et le faire en tant que... en essayant d'abolir en fait justement les barrières sociales. C'est ça moi que j'ai essayé de faire et que j'essaie de faire dans Illégitime, c'est de dire au final moi j'avais intériorisé ce mythe d'ascension sociale, j'avais intériorisé parce que j'avais cru à la méritocratie qui finalement est en leurre et j'y avais cru tellement fort que je me suis pas rendu compte de la violence qui m'attendait. Et une fois que j'ai dépassé cette violence et que je elle aujourd'hui fait partie encore un petit peu de ma vie, il faut le dire, j'ai compris en fait que parler c'était mettre fin à la honte et j'ai vu l'impact sur les autres. Et ça c'est pour moi le plus important, c'est qu'il y a aussi une volonté de solidarité derrière, de raconter nos parcours. Ça, en fait, engendre d'autres personnes à parler, d'autres personnes à se sentir moins seules. Et moi, je crois que j'ai vraiment écrit juste pour ne plus être seule dans cette vie-là, en fait.
Mmh. C'est un peu ce qui vous anime aussi, Adrien Nasselli, dans votre livre. Et vous, vous dites carrément que quand vous rencontrez ce qu'on appelle un transfuge de classe, c'est-à-dire quelqu'un qui sort d'une classe pour entrer dans une classe supérieure ou inférieure aussi d'ailleurs, pourquoi pas, hein, en tout cas qui sort de sa condition socialisante, vous, vous tombez carrément en amour.
Oui, enfin là j'ai un peu grossi le trait, évidemment je tombe pas amoureux de tout le monde, mais par contre c'est vrai que j'avais rencontré Nesrine Slaoui par exemple, parce que l'idée c'est de faire une chorale derrière ses parcours. Chantal Jacquet l'écrit d'ailleurs dans son dernier livre, elle dit pouvoir dire je suis transclasse, c'est sortir du bois et c'est ressentir un soulagement de trouver une expérience partagée. Effectivement, comme le dit Nesrine, il y a des centaines de parcours différents, il y a des personnes par exemple qui effectivement ont un parcours d'immigration, d'autres qui sont paysans dans le Vaucluse depuis 75 génération. Donc tous ces parcours-là sont différents, mais je crois que d'une certaine manière, on se reconnaît comme ayant les pieds dans deux milieux et on a une forme de lucidité partagée sur les classes sociales dans ce pays, puisqu'on en connaît au moins deux.
Nous sommes au téléphone avec Rachida. Bonjour Rachida.
Bonjour.
Vous nous appelez pour témoigner.
Oui, en fait, aujourd'hui j'ai 57 ans, je suis cadre dans la fonction publique territoriale. Et en fait, souvent, on m'a posé la question de comment j'avais fait pour arriver à ce poste, comme si c'était compliqué d'y avoir accédé, et comme si parfois j'avais eu le sentiment que j'avais pris la place de quelqu'un d'autre.
Et comment vous l'expliquez ?
En fait, je crois qu'il y a une forme d'étonnement. C'est vrai que moi, j'ai eu la chance de faire mes études dans un secteur rural. Et en fait, ce qui m'a beaucoup porté, c'est deux professeurs qui m'ont fait confiance. Et parfois, je dis que les réussites, elles sont surtout liées à des rencontres aussi. Et puis moi, j'ai des parents qui ne savaient pas lire ni écrire.
C'est la question que je voulais vous poser. Que faisaient vos parents ?
Mon père était manœuvre, et ma mère n'a pas travaillé tout de suite. Ensuite, elle a été femme de ménage, femme de chambre, et elle est partie travailler à Paris.
Et aujourd'hui, vous voilà cadre.
Voilà.
Oui. Eh bien, merci pour votre appel, Rachida. Oui. N'hésitez pas à témoigner au 01 45. Merci à vous, Rachida. Bonne journée.
Merci, 01 40. Je voulais remercier les personnes qui ont eu cette force d'écrire. Parce que voilà, moi j'aurais aimé un jour le faire et je les remercie très sincèrement.
Mais il n'est pas trop tard, vous pouvez encore vous y mettre. Merci,
merci
Rachida.
Merci beaucoup.
Bonne journée à vous et encore une fois 01 45 24 7000. N'hésitez pas à nous faire part de vos témoignages. Rachida a dit le mot chance, Chantal Jacquet. Et c'est un mot qui revient à la fois dans les écrits d'Adrien et de Nesrine, un mot qui revient également dans vos écrits à vous. Ce mot chance, c'est une chance ?
Alors, chance, il faut le prendre au premier sens, c'est-à-dire l'idée qu'il y a des hasards de rencontre, parce que initialement la trajectoire, quand on vient d'un milieu très pauvre, elle est presque au berceau tracée d'avance, puisque on a très peu de chance, autrement dit de probabilité, de changer de classe sociale, de connaître davantage d'aisance, puisqu'encore aujourd'hui 7 enfants d'ouvriers sur 10 connaissent le même sort que leurs parents. Donc il faut bien que quelque chose se produise pour infléchir cette trajectoire et surtout faire en sorte que ces probabilités ne se transforment en destin, qu'on puisse, grâce à des rencontres, grâce à des alliés d'ascension, hein, c'est la formule qu'emploie Paul Pasquali, sortir d'une condition première qu'on était voué à répéter. Et pour ça, je crois que c'est très important ce que dit Rachida, c'est-à-dire le fait qu'on ne s'en sort pas tout seul, hein, la force du poignet, contrairement à la mythologie du self-made man, il faut nécessairement des conditions, qui peuvent être des conditions matérielles, des bourses, des aides, mais des rencontres, c'est-à-dire des personnes qui croient en vous et qui ne vous assignent pas une place dans en disant, ben voilà, vous êtes d'origine maghrébine, mais voilà, votre destin, c'est d'être femme de ménage, vous ouvre des portes. Hein. C'est vraiment décisif.
Et en même temps, ce que vous dites aussi, Adrien Nassely, je cite vos mots, voilà, changer de classe, c'est avoir le cul entre deux chaises.
Oui, en fait, connaître deux milieux, c'est pas évident. Mais moi, effectivement, j'ai aussi pris le parti de dédramatiser et de déromantiser un peu ces parcours d'ascension en allant voir justement les parents, puisque en fait, souvent, c'est nos alliés d'ascension. Je reprends le terme que citait Chantal Jacquet. C'est des gens qui, en fait, c'est pas un total hasard non plus si on a pu faire des études, accéder aux études supérieures, avoir des diplômes et finalement faire des métiers qui nous plaisent.
Mais quand vous parlez de cul entre deux chaises, moi j'entends l'idée que vous êtes aussi vous retrouvez en porte-à-faux avec votre famille. Vous racontez par exemple que dans votre famille, quasiment jamais personne n'a pris l'avion.
Bah oui, enfin je crois que si je prends toute ma famille élargie, effectivement personne n'a vraiment voyagé, alors que quand je suis arrivé ici à France Inter, parce que je travaille souvent à France Inter, Thomas, je me suis rendu compte qu'effectivement mes camarades stagiaires par exemple avaient coutume d'aller, je sais pas, à New York avec leur famille une fois par an pour faire des vacances. Ça c'est quelque chose qui est totalement étranger à juste ma vie d'avant, et c'est vrai que c'est toujours avec un peu d'étonnement qu'on découvre les parcours sociaux d'autres personnes dans lesquels on se retrouve nous-mêmes pris, puisqu'on fait les mêmes études qu'eux, on fait les mêmes boulots qu'eux ensuite. Et c'est pour ça que moi j'ai voulu parler à Ali Rebehi, qui d'habitude est à votre place, parce qu'Ali, je crois, à France Inter en tout cas, est l'un des seuls qui aurait pu témoigner dans mon livre, c'est-à-dire un des seuls dont les parents n'ont pas fait d'études. Peut-être que vous me démentirez, mais selon mes informations.
Mes parents à moi non plus, mais non, je pense qu'il y en a nombreux finalement, sont ceux qui, dont les parents n'ont pas fait d'études, mais peu importe. Et Ali, en effet, sa maman n'a pas fait d'études.
Voilà, mais non, mais c'est, pour le coup, c'est un des seuls. Quand on se penche vraiment sur la biographie des gens dans le journalisme, il y a beaucoup plus de personnes dont les parents ont validé des études supérieures, ce qui n'est absolument pas un problème. Enfin, je veux dire, on ne choisit pas l'endroit où on est, mais ceci dit, dans les médias, et je m'inclus dedans parce que je suis journaliste aussi, on oublie parfois de dire d'où viennent les gens.
Ce que vous racontez aussi, Nesrine Slaoui, c'est le dans les petits gestes du quotidien que les choses changent, et notamment, vous décrivez, et on n'y pense pas nécessairement, que vous avez changé vos vêtements. Parce que, et quand je dis, voilà, on change d'habit, quand on change de monde, on change d'habit.
Totalement, et c'est même la première violence de classe, c'est ça, parce qu'elle est sournoise. C'est-à-dire qu'on ne m'a jamais dit que j'étais, qu'il fallait que je change. En fait, on m'a jamais dit, il faut absolument que tu changes. C'est pas comme ça que c'est dit, mais on le voit qu'on est différent, en fait. Moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Dans ma classe prépa, je me suis retrouvée pour la première fois avec une classe entièrement issue de la bourgeoisie, c'est-à-dire de parents plutôt aisés et parisiens, et j'ai bien vu que mes manières d'être, mes manières de parler, mes manières de m'habiller, donc qui étaient prolétaires, ouvrières, ne correspondaient pas du tout. Et donc, forcément, ça attire des regards, ça attire des remarques. Et forcément, je me suis dit, donc, il y a un travail à faire. Et j'avais pas, à cette époque-là, je voyais ça comme une nécessité. Et je ne voyais pas encore ça comme une violence. Et maintenant, j'ai l'impression de faire le chemin inverse. C'est-à-dire de dire, je crois que je n'ai plus rien à prouver. Je crois que je n'ai plus à essayer d'être intégrée dans un milieu social. Je crois que ma richesse, justement, c'est de ne pas en venir. Et je pense, et c'est pour ça aussi, c'est important d'en parler de ces récits-là, parce que ce que je fais notamment dans Illégitime, c'est aussi de dénoncer parfois le harcèlement scolaire qui va avec. Mmh. Et on est dans une période où on en parle beaucoup. Moi, je l'ai subi quand j'étais à Sciences Po Grenoble. C'était un harcèlement scolaire assez violent parce qu'il n'était pas physique, il était verbal, il était sournois. Et c'est compliqué
du coup. On vous a dit, tu prends la place de ma sœur.
Et c'est pour ça que quand Rachida a dit ça, je me suis profondément identifiée, parce que c'est quelque chose qu'on nous dit, j'ai l'impression, à tous. Et en même temps, j'y ai vu aussi une phrase sexiste et aussi raciste, parce qu'il y avait ces deux identités-là qui se croisaient. Et donc, il y avait voilà, toutes ces violences-là qui nous poussent. C'est qu'ils nous font croire qu'il faut changer pour être accepté.
Ce que vous racontez, enfin, ce qu'il faut préciser, c'est que vous avez bénéficié de. Vous étiez en ZEP et vous avez
pas
bénéficié. Non, j'ai cru comprendre que vous avez bénéficié des accords, justement, qui permettaient d'intégrer Sciences Po en ZEP. Et donc, même pas.
Justement, c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a souvent un amalgame qui est fait. Je vous en veux pas du tout de le dire, ça, il n'y a pas de souci, mais il y a souvent un amalgame qui est fait. On pense tout le temps que les personnes issues de l'immigration et ouvrières à Sciences Po sont issues de CEP, ce qui n'est pas du tout mon cas. J'ai passé la procédure classique et en même temps, je n'ai pas j'ai pas cette volonté de le revendiquer, parce que ça voudrait dire que je dénigre ceux qui l'ont fait, alors que c'est une procédure qui est totalement légitime, qui a sa place.
Mais, dont on a besoin en plus,
dont
justement,
on a besoin,
pour
exactement.
Les profils à Sciences Po.
On a exactement besoin de ces procédures-là pour améliorer en fait le système de recrutement de Sciences Po. Et donc voilà, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi, c'est-à-dire que j'étais noyée dans une masse et du coup, il y avait comme ça des confusions qui disent en fait, en réalité, beaucoup plus de ce qu'on pense des systèmes inégalitaires qui, en fait, ça ne me ciblait pas réellement. Ça ciblait plus, en fait, nous, en tant qu'individus issus de l'immigration et du milieu populaire.
Est-ce qu'il y a cette notion de syndrome de l'imposteur, Adrien Nasselli? Vous citez en incipit, donc au début de votre roman, Céline Dion, une référence éminemment populaire, dont je doute qu'on l'étudie à Sciences Po, hein, qui dit « on a toujours un geste qui trahit qui l'on est, un prince, un valet ».
Moi, je pense que ma manière de me sentir légitime, ça a été d'être toujours l'original de service. Par exemple, quand je suis arrivé à l'ENS, alors pour le coup, c'est pas comme Nesrine. Moi, j'ai bénéficié d'un parcours parallèle au concours général de l'ENS qui est très difficile, qu'il faut passer par les classes prépa. Il y a vraiment un tout petit nombre de personnes qui en bénéficient. Et moi, c'est mes profs de la fac de Grenoble qui m'ont dit, passe ce nouveau concours qui est réservé aux gens qui ont des parcours différents, qui sont boursiers, qui n'ont pas forcément fait les classes prépa. Donc sans ces gens de la fac de Grenoble, Julien Pia, Angela Braito, j'aurais jamais su que ça existait. Je me suis retrouvé à l'ENS et là, en fait, j'étais tellement moins capé que les autres en termes d'érudition, en termes de savoir, de travail, parce que ces gens-là ont beaucoup bossé, que du coup, je me suis retrouvé à faire un mémoire de lettres sur les chansons de Mylène Farmer. Donc ça rejoint Céline. C'était ma manière à moi de me dire, de toute façon, personne voudra faire comme moi. Donc en fait, si je fais un mémoire sur Mylène Farmer, je serai pas en concurrence avec ceux qui parlent latin couramment.
Mais ma question, c'était vraiment sur le syndrome de l'imposteur.
Bah du coup, je l'ai pas ressenti très fort. C'est-à-dire que je m'en suis sorti en justement me démarquant de mes camarades et en faisant des trucs un peu étrange, qui me mettait pas sur le même pied d'égalité. On pouvait pas me comparer, du coup.
Chantal Jacquet, on vient de mentionner deux écoles importantes, donc Sciences Po et l'école normale supérieure. Cette mobilité sociale, cet ascenseur social, passe nécessairement par ces grandes écoles ?
Pas nécessairement, puisqu'il y a d'autres formes de parcours transclasse, par exemple par le sport, ou bien par le monde du spectacle, les acteurs issus de milieux populaires. Donc il y a une pluralité de voix. Alors la voix qui est sans doute peut-être la plus valorisée, c'est ce que j'appelle les transclasses par la classe. Les transclasses par l'école, parce qu'on a l'impression précisément que ça va justifier la méritocratie. Mais il y a une pluralité de voix, y compris le fait qu'à un moment donné, en fonction des besoins économiques de la classe dirigeante, on aille chercher des gens. Donc c'est pour ça que je suis réservée quant au fait de désigner seulement ces parcours par le terme de transfuge de classe, celui qui a fui sa classe, parce qu'on vient parfois vous chercher, ou c'est parfois une famille qui vous propulse parce qu'elle veut finalement prendre une revanche sociale, ou elle veut que les enfants aient une meilleure vie. Donc ces parcours sont extrêmement diversifiés. Je voulais revenir sur ce qu'a dit Adrien tout à l'heure, sur cette idée d'être entre deux. C'est à la fois une fragilité, parce qu'il y a un malaise au sens où on ne sait pas où est sa place, mais une force, parce qu'en réalité, les places, l'idée de place, c'est quelque chose d'un petit peu mythique. Il n'y a pas de raison d'avoir une place. Le fait de se déplacer, au contraire, c'est une force, parce que ça permet d'observer différents milieux sociaux, de les déconstruire, de dégonfler les outres aussi, parce qu'on s'aperçoit comment les codes sont restreints, comment ils sont contraignants, comment ils servent à disqualifier. Et je crois que c'est comme ça aussi qu'on sort de la problématique de l'illégitimité, puisqu'on peut avoir un regard critique, on essaye de se définir et d'être soi-même tout simplement, alors quand je dis tout simplement, c'est au bout d'un long chemin, pour cesser à vouloir faire ses preuves sans arrêt, lorsqu'on considère que vous n'êtes pas à votre place, parce que vous prendriez la place de ceux qui sont légitimes, mais ils ne sont pas plus légitimes que d'autres. C'est pas parce que le hasard les a fait naître dans tel milieu social qu'ils doivent revendiquer leur héritage et que de toute éternité, ils doivent occuper les places les plus importantes. Donc, il faut critiquer cette notion de place, il faut critiquer cette notion de légitimité, il faut permettre à cette diversité de s'exprimer et la reconnaître et au fond faire droit à tous les parcours.
Transfuge de classe, c'est le thème de Grand Bien vous fasse ce matin. Où mène ce chemin tortueux et torturant parfois aussi? Et vous, est-ce que vous l'avez emprunté? Est-ce que vous pensez que l'ascenseur social est en panne? On attend toujours vos appels 01 45 24 7000 et vous pouvez aussi nous écrire ou nous laisser des notes vocales sur l'appli de France Inter.
Les Britanniques de The Verve, Better Sweet Symphony, toute la programmation musicale est à retrouver sur le site de France Inter.
Grand bien vous fasse, Thomas Chauvineau, sur France Inter.
Trois invités aujourd'hui pour parler des transfuges de classe, Nesrine Slaoui, Adrien Nasselli, qui sont journalistes, et puis la philosophe Chantal Jacquet. C'est vrai qu'il est long le chemin pour passer d'une classe à l'autre. Vous racontez dans votre livre, Nesrine Slaoui, que votre armoire chez vos parents à Apt, dans le sud de la France, c'est un peu une frise chronologique, mais disons verticale, où vous avez conservé tous les bulletins. Alors évidemment, là, pour la petite classe, c'est en bas, et plus ça va, plus ça monte.
Exactement, et je m'en suis rendu compte pendant le confinement, j'avais jamais fait cette analogie-là, et c'était quand je suis retournée me confiner chez mes parents, où j'ai écrit Illégitime d'ailleurs, que je me suis mise face justement à cette étagère avec 4 étages, et en fait on voyait justement en bas donc mes notes de lycée, et puis tout en haut il y a les classeurs où il y a écrit en gros dessus Sciences Po, et je trouvais ça assez fou que ça soit résumé, qu'un parcours scolaire soit résumé en fait par cette tour-là, et en même temps quand j'ai feuilleté, c'est ce que je raconte en fait, quand j'ai feuilleté en fait les classeurs avec mes notes, je me suis rendu compte qu'en fait ça avait été mon vrai passeport, c'est-à-dire que sans ces notes-là j'aurais jamais pu en fait quitter mon milieu, j'aurais jamais pu partir à Paris, parce que moi il y avait vraiment cette idée de monter à Paris, il y a souvent encore ce mythe qui existe, et c'était loin, c'était à 700 km et ça passait par les notes, ça devait passer que par les notes, et je me suis dit en fait ma vie a vraiment est issue de ces bouts de papier là, c'est un peu fou de le dire comme ça, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai perçu, et je me suis rendu compte du coup du chemin parcouru en justement retournant là où j'ai grandi, exactement.
Claudine nous appelle au 01 45 24 7000. Bonjour Claudine.
Bonjour.
Vous vouliez témoigner, vos parents sont ukrainiens, vous avez fait normal sup à 18 ans, agrégé d'allemand à 22.
21.
Bah, encore plus Wunderbar.
Oui, donc mes parents étant d'origine étrangère, ils étaient aussi analphabètes. Mon père était manœuvre, ma mère sur la fin a fait des ménages parce qu'on n'y arrivait plus. Et donc j'ai très vite compris que mon chemin c'était la réussite scolaire. Donc j'ai fait 3 ans d'école primaire et puis ensuite, bon, avec pour horizon le fait d'être institutrice dans mon village en Lorraine, petit à petit je me suis rendu compte qu'avec des bonnes notes on pouvait aller en classe prépa et même plus loin. Et puis finalement je me suis retrouvée, j'ai fait toute ma carrière au service de l'État, je me suis retrouvée en butte aux jalousies, comme si la réussite scolaire était « Ah toi tu te prends pour qui parce que tu es arrivée là ?» J'ai vécu ça dans l'éducation nationale quasiment toute ma carrière. Je me suis réorientée. J'ai passé l'ENA à 45 ans. Et là, je me suis retrouvée dans les concours internes les plus vieux. Donc déjà avec une suspicion de n'être pas à la hauteur des jeunes loups aux dents longues. Et ensuite, après, à la sortie de l'ENA, donc moi j'ai choisi le corps des magistrats administratifs. Et je me suis rendu compte qu'il y avait là aussi tout comme pendant la période où j'étais dans les services culturels à l'étranger, une sorte de plafond avec des réseaux qu'on n'a pas, qui fait qu'on ne va pas participer au bon colloque, par exemple, avec des manières qu'on n'a pas, des références qu'on n'a pas. Par exemple, je me suis formée toute seule à une certaine culture classique en matière de musique, mais ça, on ne l'a pas. Et ça, on le ressent toute sa vie. Je viens de prendre ma retraite et c'est un peu un constat assez amer de faire que malgré tout, on est toujours rattrapé. Et le problème, c'est aussi qu'on a la honte de son milieu, qu'on repousse, et encore plus pour moi, puisque mes parents parlaient ukrainien et moi je ne le parle pas. Donc on se parlait, on se comprenait, chacun parlait sa langue chez soi. Et ensuite, donc, cette honte, on en a honte. Et c'est un peu ce que décrit très bien Édouard Louis. Moi j'en suis au stade, maintenant que mes parents sont morts, d'avoir honte de cette honte.
Ben merci pour votre témoignage puissant, Claudine. C'est ce que vous dites aussi d'ailleurs, Nesrine Slaoui, la honte d'avoir honte, c'est exactement les mots que vous utilisez dans votre livre.
C'est pour ça que j'ai souri, mais c'était un sourire un peu nerveux, c'est-à-dire que c'est comme ça que je l'ai perçu aussi à un moment donné quand ma mère a eu un accident en fait de travail qui lui a gravement abîmé la main, et je me suis rendu compte qu'il fallait que j'arrête d'avoir honte parce que en fait c'était les miens et qu'il n'y avait aucune raison d'avoir honte. Et c'est assez fort parce que c'est vraiment la phrase que j'ai écrit mot pour mot, c'est honte d'avoir honte. Et une fois qu'on a passé ce cap, on a tout compris des logiques. Et je voulais juste rajouter quelque chose qui me semblait important parce que elle a parlé justement de la culture classique qu'il faut absorber, etc. Et pour moi, je fais même un rejet de ça, c'est-à-dire que j'ai compris que le fait de nous forcer à apprendre d'autres choses, c'était une logique de distinction. On sera jamais en fait à la hauteur de toute façon, parce que la bourgeoisie et les milieux dominants trouveront toujours un moyen de se différencier. C'est toute la logique en fait des classes sociales. Donc moi, à un moment donné, j'ai refusé cette quête éternelle. Vous en parlez tout à l'heure justement, cette quête éternelle de satisfaction, de cocher des cases, de remplir, de moi je connais ci, je connais ça. Et j'ai accepté aussi que je connaissais d'autres choses qu'ils ne connaissaient pas. Par exemple, j'ai longtemps eu honte du fait de parler arabe. Elle parlait justement de parler ukrainien. J'ai longtemps eu honte de parler arabe et de me dire que c'était pas une langue riche et valorisante, etc. Maintenant, je suis bilingue en arabe et c'est une incroyable richesse dans un monde où il y a plus de pays arabes que de pays francophones. Donc en fait, il y a quelque chose aussi de l'ordre de, il faut replacer le curseur de la culture, de ce qu'on considère comme élitiste ou non, et de briser justement cette distinction entre les savoirs, les pratiques.
C'est très codifié finalement.
Exactement. Et je parle, quand je dis notamment dans l'illégitime, j'ai fait un choix de citer à la fois des sociologues, des écrivains et des rappeurs. Et pour moi, ça a du sens. C'est-à-dire que ma construction intellectuelle, elle s'est faite par tous ces savoirs-là qui, pour moi, n'ont pas de hiérarchie en réalité.
On trouve notamment Ayam dans votre...
Et on trouve Kerry James.
Ayam et Kerry James. Après Céline Dion et Mylène Farmer, je crois que la programmation musicale de France Inter va devoir être transformée.
On change tout.
Et ça raconte aussi ce témoignage qu'on vient d'entendre, encore une fois, très, très puissant de Claudine, qui a quand même, voilà, agrégé d'allemand à 21 ans, qui a passé l'ENA alors qu'elle avait 45 ans, donc continuer à avancer. Cette idée peut-être qu'il faut toujours en faire un peu plus, être plus brillant que les autres, et c'est ce que vous abordez également, Adrien Nasselli.
Oui, en faire plus, mais moi du coup, le parti pris que j'ai pris dans ce livre, justement pour lutter contre cette honte d'avoir honte, c'était d'aller parler à nos parents. Et donc en fait, parler à nos parents, ça permet aussi de retisser un dialogue sur cette question qui n'est jamais abordée. En fait, c'est très rare de faire un brunch le dimanche. D'ailleurs, on fait pas de brunch, hein. Généralement, ça c'est un milieu plutôt dans les classes supérieures. Mais enfin, en tout cas, de petit déjeuner et de dire « alors, ma nouvelle classe sociale, on en parle ». Enfin, c'est pas des choses qu'on aborde. Donc moi, je me suis dit dans ce livre, allons voir ses parents. Qu'est-ce qu'ils pensent de nos parcours? Qu'est-ce qu'ils retiennent? Qu'est-ce qui pour eux fait sens, ne fait pas sens? Et ça permet de découvrir que, en fait, on n'est peut-être pas forcément des transfuges de classe par hasard. Je sais pas, Claudine parlait des notes, de l'importance des notes à l'école. Une des choses que j'ai découvertes parmi mes 15 témoins, c'était que l'école était hyper importante. Tous les parents faisaient quand même très attention aux notes de leurs enfants, leur lisaient des histoires avant de s'endormir. Enfin, il y a vraiment un soin comme ça qui est apporté aux enfants sur 14 des 15 parents que j'ai rencontrés. Et du coup, il y a peut-être quelque chose à voir aussi de l'ordre qui n'est pas juste un miracle, en fait. C'est aussi des choses qui ont été programmées en nous, peut-être, qui ont été insufflées.
Chantal Jacquet.
Oui, je pensais d'abord à Camus, qui est le premier à avoir dit qu'il fallait, enfin, qui ressentait de la honte, d'avoir honte, parce qu'il n'osait même pas noter la profession de sa mère à l'école quand on lui demandait. Il était embarrassé, il ne voulait pas dire qu'elle était femme de ménage. Et je crois que cette honte d'avoir honte, c'est un premier pas vers la libération vis-à-vis des catégories du jugement des autres qui ont tendance à vous dévaluer, à vous demander de prouver que vous êtes à la hauteur, ou au contraire de vous faire honte à votre tour devant vos manques, vos insuffisances, parce que vous n'avez pas les bons codes. Et je crois que ce qui est très important, et je le pense dans ce que dit Claudine, ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, il faut penser à ce qu'on apporte aussi à ce milieu que l'on a tendance à fantasmer comme supérieur, la puissance critique qu'on peut avoir, comment on le métisse, comment au fond on apporte d'autres valeurs, hein, et on amène finalement à prendre conscience que un milieu social souvent est fermé, il y a un entre-soi, donc le fait de ne pas avoir un parcours linéaire, le fait de parler plusieurs langues, le fait de ne pas être comme les autres, c'est aussi une force, et ça permet peut-être de faire bouger aussi des lignes. Donc il ne faut pas seulement le prendre du point de vue de la souffrance que peut occasionner le fait de ne pas se sentir à sa place. Il faut le prendre comme une force motrice qui n'est peut-être pas à elle seule transformatrice des sociétés, parce que un transclasse ou un transfuge de classe ne change pas la face du monde, hein. Mais en même temps, ça fait bouger les lignes, et ça, c'est important. Donc ce que Claudine a pu apporter justement à travers son propre parcours aux autres, même s'ils ont pu être critiques pour certains, ils ont aussi marqués par cette différence, par le fait que ils ont dû s'ouvrir de gré ou de force à un autre mode de pensée, à d'autres valeurs, à l'immigration, à d'autres personnes, à une autre histoire.
Je voudrais vous faire écouter ce que disait à ce sujet Anne Hidalgo, qui était interviewée en septembre dernier sur France 2 par Laurent Ruquier et Léa Salamé.
Je suis pas née dans le petit triangle sacré de Saint-Germain, de l'ENA et de Sciences Po, hein. Je suis née en Espagne, j'ai grandi dans un quartier populaire de Lyon, puis dans une cité qui s'appelle La Duchère, et j'ai eu la chance, vraiment j'ai eu la chance, grâce à l'école républicaine, de faire des études et de choisir ma vie.
Cette école républicaine, vous en parlez également, Nesrine Slaoui, puisque vous remerciez à la fin de votre livre deux enseignants qui s'appellent Daniel et Sylvie, je crois.
Exactement.
Pourquoi cela ?
Parce que elles ont fait partie des seules qui ont cru en moi. J'ai eu quand j'étais au lycée, moi j'ai tout de suite voulu être journaliste. Dès le collège, en fait, c'était une ambition que j'avais. Et dès que je le formulais, j'avais beaucoup de réticences de mes professeurs qui me disaient que ce n'était pas fait pour moi, que c'était beaucoup trop difficile à atteindre comme sphère sociale, que j'avais pas les bons codes, etc. Et puis je suis tombée sur deux professeurs, donc Daniel Sabat et Sylvie Barra, qui m'ont en fait justement, qui étaient profs de sociologie et profs d'italien, et qui m'ont en fait encouragée en me donnant plus de devoirs. C'est-à-dire qu'elles ont compris que j'étais dans une quête permanente de curiosité, que j'étais vraiment très motivée, très ambitieuse, et elles ont fait partie, voilà, de ces professeurs-là qui m'ont aidée, qui m'ont poussée, qui ont cru en moi. Et je pense que quand on est adolescent, quand on essaye comme ça de chercher un ailleurs, c'est important d'avoir des personnes qui vous disent que c'est possible. Moi, j'avais la chance que mes premiers alliés d'ascension, c'était mes parents. En réalité, s'il y a bien des personnes que je dois remercier avant tout le monde, c'est bien eux, parce que c'est eux qui ont fourni l'effort, ne serait-ce que financier, de me permettre de faire de grandes études, de grandes écoles. Mais par contre, c'est vrai qu'elles sont très importantes, parce que on a toujours échangé, même après, pendant mes études, pendant Sciences Po Grenoble, elles ont lu mon livre. On a toujours gardé en contact, parce qu'elles sentaient peut-être avant moi que j'allais en souffrir, et elles voulaient pas me le dire en réalité. Elles ont essayé de me préserver et de se focaliser sur le savoir à me donner, sans essayer de, parce qu'en fait il y a une vraie question, peut-être que Madame Jacquet pourra nous en parler un peu mieux, mais il y a cette vraie question de, quand on raconte nos parcours, il y a une dichotomie de, est-ce qu'on, quand on le fait, est-ce qu'on devient un modèle? Est-ce qu'on devient un alibi, ou est-ce qu'on encourage les prochains? Et c'est toute une question que même les professeurs se posent, de à quel point il faut prévenir de la discrimination, à quel point il faut raconter aux élèves en fait la violence de nos sociétés, de la reproduction sociale. Et c'est vraiment tout l'enjeu. Et c'est là aussi où nos livres et nos récits ont un enjeu, c'est-à-dire où ils se placent sur cette échelle-là.
Devenir un modèle, d'autant que vous avez commencé à l'évoquer en début d'émission, mais je pense qu'on peut revenir dessus, Chantal Jacquet. Toutes les études montrent que l'inégalité scolaire est très forte en France, l'une des plus fortes, en tout cas dans les pays de l'Union européenne.
Oui, c'est l'une des plus fortes. Alors, Elle est encore plus forte aux États-Unis. Elle est beaucoup moins forte dans les pays scandinaves, ce qui montre bien que ça relève d'une politique. Ces inégalités ne sont pas enracinées dans les mérites personnels ou les démérites de chacun. Elles ont des causes politiques, elles ont des causes économiques, et c'est la raison pour laquelle ce qui importe aussi quand on est transfuge de classe ou transclasse, c'est de savoir quelle position on occupe d'un point dans le champ social et politique. Qu'est-ce qu'on fait de ce parcours? Parce que, bien sûr, on se pose des questions concernant sa légitimité, son imposture, il peut y avoir de la honte, de la souffrance, mais il faut aussi penser à ceux qui sont restés derrière et qui, eux, seront restés invisibles et qui, de toute éternité, sont présentés comme illégitimes, comme assignés à des places subalternes. Et là, véritablement, honte, elle est là aussi. C'est-à-dire que c'est pas ces parcours qu'on va montrer comme des exemples qui vont tout résoudre, mais je crois que les transclasses, s'ils peuvent avoir une fonction dans la société, c'est d'alerter aussi les dirigeants politiques sur la difficulté d'arriver à changer de classe sociale, à briser la reproduction, sur les difficultés que peuvent avoir les parents à avoir un autre, à rêver d'un autre avenir pour leurs enfants. Donc c'est aussi en cela qu'ils peuvent avoir une vertu ou une positivité, être des modèles, pas tellement parce qu'ils étaleraient une forme de réussite, parce que qu'est-ce que ça veut dire réussir? De toute façon, je dis souvent, apprendre à vivre, c'est apprendre à réussir ses échecs. On apprend aussi de l'échec, hein. Et je crois que ce qui est important, c'est précisément de savoir comment on peut être un instrument d'une plus grande liberté. Et pour cela, je crois qu'il faut sortir des mythes et des mythologies, s'élever à la force du poignet, avoir une sorte de génie, de bonne étoile. C'est pas comme ça que ça se passe.
C'est pas aussi simple. Les transfuges de classe, vous vouliez intervenir, Adrien?
Je voulais juste dire que dans le livre de Chantal Jacquet, juste en passant, son dernier livre, elle évoque à un moment le fait qu'elle a pas forcément eu honte, elle, mais en tout cas qu'elle a cette colère devant l'injustice qui vient de votre parcours, j'imagine, Chantal Jacquet. Et je pense qu'on le partage un petit peu aussi, on garde quelque chose de cet ordre-là, une colère devant l'injustice, et on a tendance à aller voir ce que c'est la réussite, qu'est-ce que c'est la réussite.
Mais une colère que vous avez réussi à transformer. Tous les trois, vous avez écrit des livres, tous les trois, vous avez réussi vos études.
C'est une colère joyeuse, voilà.
Une colère joyeuse, en demandant aux parents, justement, qu'est-ce que c'est la réussite pour vous, et ces parents ont d'autres réponses. Dans mon livre, en tout cas, ils disent peut-être que c'est s'occuper de sa famille.
Les transfuges de classe aujourd'hui dans Grand Bien vous fasse. Dans quelques instants, nous serons au téléphone avec une jeune femme qui a fait, disons, le chemin inverse, ancienne conseillère politique. Elle est partie vivre à la campagne pour faire pousser de quoi fabriquer des tisanes bio. Ce sera juste après Stromae.
À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa. Quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Bonne manière. Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de faire. Appelle-moi ton responsable. Et fais vite, elle pourrait se finir comme ça. Ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Frottez, frottez. Mieux vaut ne pas si frottez. Si tu ne me connais pas, brosser, brosser. Tu pourras toujours te brosser, brosser. Si tu ne me réponds pas. respectent pas. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas.
Santé, extrait du nouvel album tant attendu de Stromae. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h.
France Inter. Grand bien vous fasse. Thomas Chauvineau.
Et nous parlons ce matin transfuge de classe avec les journalistes Nesrine Slaoui et Adrien Nasselli, et puis la philosophe Chantal Jacquet et ses messages qui nous arrivent. Charlotte qui nous dit notamment « Bonjour, en règle générale, j'adore vos émissions, mais aujourd'hui je suis outré. Je suis moi-même enfant de cadre qui a décidé de devenir ébéniste. La méconnaissance des métiers manuels est déjà catastrophique. Je suis étonné que sur une radio nationale, on prêche le fait que les métiers supérieurs ne soient que des métiers de bureau. Il me semble que nous sortons d'une période qui a pourtant mis en valeur les personnes indispensables à notre vie, à notre service, et les énarques n'en faisaient pas réellement partie. Il n'y a pas de sous-classe ou de sous-métier. » Justement, on s'intéresse également aux deux sens de l'échelle, aux deux sens de l'ascenseur, puisque nous sommes aussi au téléphone avec Claire Desmarpoirier. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous étiez ancienne conseillère politique, vous êtes retournée vivre en Bretagne pour devenir paysanne, c'est le mot que vous employez. Pourquoi ce choix ?
Ben moi, j'ai connu les deux sens de l'ascenseur, c'est-à-dire que je me reconnais beaucoup dans les premiers témoignages, parce que j'étais issue d'un milieu de la petite classe moyenne et que j'ai fait Sciences Po. Et j'ai fait le choix après de partir dans un autre espace, qui est celui du monde agricole. Et il y a 20 ans, il n'y avait même pas de statistiques pour les gens comme nous. Maintenant, on a un nom, c'est les NIMA, non issus du monde agricole, parce qu'on parle des espaces qui sont clos. À l'altérité, le monde agricole en faisait partie dans une autre manière, mais néanmoins d'une manière réelle. Et aujourd'hui, on voit dans cet espace la possibilité de prendre sa place quand on n'est pas issu du monde agricole. Et donc moi, j'ai fait ce choix, un choix de revenir à la terre, mais aussi un choix d'assumer le fait qu'il y avait un autre mode de réussite que celui de l'ascenseur social, dans lequel je m'étais pas retrouvée du tout par ailleurs. C'est-à-dire que j'avais joué le jeu, j'avais passé les concours, j'avais réussi mes études. Et finalement, je trouvais pas vraiment ma place à cet endroit-là. Et donc, j'ai fait le choix d'un passage dans l'autre sens. Et aujourd'hui, je revendique une forme de fluidité de classe et de la capacité de m'adapter à des espaces différents, avec des codes différents et avec des manières de vivre différentes, parce que... tout le monde doit s'adapter, quoi. C'est vrai que même quand on a fait ce chemin, pour mes collègues agriculteurs qui sont issus du monde agricole, c'était pas facile. Quand ils venaient chez nous, ils me disaient « Mais vous avez lu tous ces livres ?» Du coup, il y avait vraiment... Voilà, le choc culturel, il peut être dans les deux sens, quoi.
Pour vous, en quoi c'était compliqué, justement? Parce qu'on a parlé tout à l'heure de ces difficultés de codes qu'on n'avait pas, mais vous n'avez pas non plus forcément les codes des agriculteurs chez qui aujourd'hui vous vous rendez.
En fait, c'est la même chose que ce qu'on décrit pour la difficulté de s'intégrer à Sciences Po, parce que nous, on n'a pas les références culturelles, parce qu'on part pas en vacances à New York, et parce que je portais pas un smic de fringues sur moi quand je suis arrivée. Quand j'étais étudiante à Sciences Po, contrairement à mes petites camarades qui étaient issues des beaux quartiers parisiens, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, dans les formations agricoles, on vous apprend très peu à vous servir d'un tracteur, parce que quand les parents sont agriculteurs, à 14 ans, vous savez conduire un tracteur. Donc, en fait, il y a plein de choses comme ça qui sont pas transmises dans la formation, parce que ça fait partie du background culturel. Et de fait, quand on atterrit dans le monde agricole et qu'on doit en acquérir les codes, on a besoin de parrainage, marrainage de gens qui vous transmettent des choses qui sont pas dans les formations, mais qui sont essentielles à la façon de vivre votre métier. Et souvent, c'est dans cette forme, voilà, de parrainage qu'on va trouver la transmission de ces savoir-faire et de ces codes qui sont pas les mêmes en fait que ceux qu'on peut avoir dans un autre mode de vie.
Je dois préciser également que vous êtes impliqué en politique puisque vous étiez tête de liste au régional.
Oui, moi c'est aussi ce que j'ai dans la fluidité de classe, c'est-à-dire que moi je me sens bien et heureuse à la campagne avec ces modes de vie, mais j'ai envie aussi au bout de 10 ans de me dire finalement j'ai pas à rejeter ce que j'ai réussi à conquérir, parce que clairement, comme le disaient tous vos intervenants, faire Sciences Po quand on n'est pas issu du Serail, c'est compliqué, et en fait je me suis dit voilà, je veux peut-être utiliser un peu cette fluidité, cette capacité à parler.
Mais devenir paysan quand on n'est pas sorti du Serail, comme vous le dites non plus, enfin comme vous le dites aussi, c'est également compliqué.
Bien sûr, bien sûr. Et en fait, oui, ça l'est dans les deux sens, et ça l'est aussi dans l'artisanat, ça l'est aussi dans le monde ouvrier. Et moi, je suis d'accord avec ce que disait la personne dont vous lisiez le mail avant. La question de la légitimité des modèles de réussite et de la valorisation de certains métiers et savoir-faire, c'est un enjeu de société aujourd'hui. Et je pense que, enfin, j'aimerais en tout cas qu'après le Covid, on soit capable de reconnaître que finalement, ce que je fais, en tout cas moi, c'est ce que je défends.
C'est essentiel.
Je réussis aussi bien en étant conseillère régionale que en étant agricultrice. Et ce que je fais est aussi utile et important pour la société, dans un sens comme dans l'autre, même si on voit bien que l'aura qui entoure le monde agricole n'est pas le même que celui qui entoure l'espace politique.
Vous faisiez allusion à Charlotte, hein, qui nous écrivait parce qu'elle était outrée, parce qu'en effet, on avait parlé de l'ascenseur social pour l'instant que dans un seul sens. Charlotte, si jamais vous êtes toujours à l'antenne de France Inter, j'espère que vous êtes un peu moins outrée. Merci pour votre témoignage, Claire Desmarpoirier. Bonne journée à vous. J'imagine que vous retournez dans vos champs, non?
Non, là, aujourd'hui, je suis en déplacement à Paris,
Bah, d'accord. Voilà. C'est ça. La fluidité dont vous parliez, c'est exactement ça. Merci à vous. Bonne journée. Vous vouliez réagir. Au revoir.
Oui, moi, je voulais répondre à Charlotte, en fait, qui disait qu'elle était outrée. Il est absolument hors de question de dire que nos métiers sont meilleurs que les métiers des autres. D'ailleurs, c'est bien pour ça que je vais voir les parents de mon livre, qui sont aides-soignantes, femmes de ménage, ouvriers, chauffeurs de bus, chauffeurs de taxi. Enfin, c'est absolument des gens qui étaient en première ligne pendant la pandémie. Et c'est pas parce que nous, on a eu la chance de faire des études qu'on se sent supérieure aux autres, absolument pas. Et on vit, je pense, toute la vie avec cette tentation de revenir, comme l'auditrice qu'on vient d'avoir au téléphone, vers des métiers qui seraient des métiers qui font plus sens, parce que ce seraient des métiers manuels, dans lesquels, en fait, on aide les autres, on prend soin des autres, plutôt que de prendre soin uniquement de sa propre carrière et de sa propre image. C'est vraiment quelque chose avec lequel on vit en permanence. Et je pense que nos témoignages, ils sont pas là pour dire que nous, on a réussi. Ils sont là pour interroger ce que c'est la réussite. Et vraiment, enfin, que cette auditrice soit certaine qu'à aucun moment, on pense qu'on est mieux que les gens dont on parle et d'où on vient.
Et je pense qu'en fait, je pense avoir compris d'où vient cette confusion, c'est parce que on utilise souvent le terme, je pense qu'on a dû le faire en plateau, de classe supérieure et de classe inférieure. Je pense que ça vient de ça. Donc c'est pour ça que je préfère, et je pense que les sociologues surtout le préfèrent bien avant moi, de parler de classe dominante et de classe dominée. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est pas de hiérarchiser des métiers en fonction de leur valeur sociale, parce que justement, la hiérarchie, elle est plutôt inversée, mais c'est juste en termes de qui a le pouvoir dans la société, qui prend les décisions et sur qui ils appliquent ces décisions-là. Donc moi, je préfère réfléchir en termes de classe dominante et de classe dominée. C'est ça, en fait, la réalité. Et effectivement, Charlotte a totalement raison, il n'y a pas de métier supérieur à d'autres. Et en réalité, le Covid nous a montré quels métiers étaient essentiels. Donc, on est d'accord là-dessus.
C'est aussi pour ça que je récuse l'idée d'ascension sociale. Parce que, je veux dire, on peut s'être élevé d'un point de vue économique et être un moins qu'en rien. Donc, il faut surtout pas raisonner en termes de valeur des parcours. Hein. Le parcours, il est ce qu'on en fait. Et c'est pour ça que je parlais de transclasse pour se libérer de tous les jugements de valeur, et ça se fait dans les deux sens. Et je pense en particulier à ceux qu'on appelait les établis, qui ont quitté un milieu et le confort bourgeois avec l'aisance financière pour aller travailler en usine, de façon délibérée pour partager la condition ouvrière. Il y en a plus maintenant, mais c'est des parcours qui sont tout à fait admirables, et on se heurte aussi dans ce cas-là au fait qu'on n'est pas forcément bien accueilli quand on fait ce type de parcours, comme le soulignait Madame tout à l'heure. On n'a pas nécessairement les codes, on vous attend aussi au tournant, parce que vous n'avez pas l'expérience sociale qu'ont ceux qui sont nés dans ce milieu-là. Donc, à chaque fois, il faut déconstruire les codes, apprivoiser, se faire accueillir, être capable de montrer qu'on s'adapte à ce milieu.
Oui, mais il faut faire attention quand même, pardon, mais en fait, à un moment donné, il y a quand même, comme disait Nesrine, une classe dominante, une classe dominée, et les gens dont les parents étaient diplômés, qui ont encouragé leurs enfants à faire des grandes études, et ensuite, si ces enfants-là décident d'aller faire DJ à Berlin, ou d'aller ouvrir un club de sophrologie et qui se définissent comme précaires, à un moment donné, ils ont fait un choix de revenir vers un mode de vie un peu précaire. Mais les diplômes, souvent, ils les ont. Et donc,
Je
comprends ce que fait Chantal Jacquet dans son livre, d'essayer d'enlever les jugements de valeur en parlant d'ascension et de descente en même temps. Mais en réalité, c'est pas les mêmes dynamiques qui sont derrière. Vraiment pas.
Sur franceinter.fr, Damien nous dit « Pourquoi devons-nous mettre systématiquement les classes supérieures, justement, comme un idéal à atteindre ? Comment pouvons-nous croire, voire souhaiter une égalité sociale si l'on garde une vision si verticale de notre société ?» Et ça me fait penser à ce que vous disait l'un de vos cousins, je crois, Michael, Adrien Nassali, qui vous dit « Mais c'est vrai, pourquoi toujours monter dans la société ?»
Ouais, ça l'intéresse pas. pas vraiment, quoi. Quand je lui ai parlé de mon projet de livre, au début, il n'a pas vraiment compris ce que je voulais faire. Après, je pense qu'il a compris que c'était plus un clin d'œil, un message adressé à ma famille, un message de fidélité et d'amour. Mais effectivement, vraiment, lui, il s'est pas du tout impressionné par mes diplômes, quoi.
Chantal Jacquet.
Je pense qu'il faut
pourquoi
sortir.
Toujours voilà.
Alors mon livre, le premier livre, Les Transclasses ou la non-reproduction, il s'est construit précisément contre cette manière de raisonner qui consiste à dire il y a de l'ascension sociale ou du déclassement. Alors on peut dire qu'effectivement on améliore ses revenus économiques ou ils peuvent diminuer, mais pour le reste, toute la condition humaine, elle est à repenser et chacun a une légitimité dans sa condition. On peut pas accuser quelqu'un d'être né dans tel ou tel milieu d'en être responsable, y compris dans les milieux bourgeois. On va pas rejeter un héritier parce que il est né dans un milieu bourgeois. Toute la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a fait de nous, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de l'héritage qu'on nous a transmis, qu'on soit issu d'un milieu populaire, qu'on soit issu d'un milieu bourgeois, qu'est-ce qu'on fait pour que cette société soit plus humaine et que chacun trouve sa place, hein. Et donc la notion d'ascension me paraît une illusion complète, hein. Encore une fois, on peut très bien économiquement avoir des revenus supérieurs et se comporter d'une manière vile, ignoble vis-à-vis des autres. Donc si on a un agent de reproduction de la domination, je pense pas que ça soit une forme de promotion de soi, hein. Et c'est pour ça que je dis que parfois, en s'élevant socialement, on s'abaisse d'un point de vue moral et éthique, hein, parce que on n'a pas contribué à faire en sorte que le monde dans lequel on vit soit plus humain, soit plus juste, et permette à chacun de donner la possibilité de vivre au mieux.
C'est un peu les derniers mots que vous avez dans votre livre, Nesrin Slaoui. Vous dites « Je ferai simplement ce que j'ai à faire,
comme j'estime
devoir le faire, et je tâcherai alors de jouir d'être à jamais illégitime. »
Parce que justement, moi, je n'ai pas fait ce parcours pour monter, j'ai fait ce parcours tout simplement pour exister. Quand on a des trajectoires comme les miens, comme les miennes, j'ai parlé de notamment l'immigration de mes parents, etc. En fait, il y avait tout simplement une volonté de prendre une place, même pas d'aller chercher encore plus haut, c'est-à-dire que ma place n'existait même pas en réalité. Donc, il fallait tout j'avais tout simplement cette envie-là. Et je crois qu'il est surtout question de l'égalité des possibles, au-delà de la volonté de monter. C'est pas ça, en tout cas, ce que j'essaie de raconter dans le livre et ce que je veux montrer, c'est qu'il faut qu'on aboutisse le plus vite possible à une égalité de nos possibilités, à l'égalité des chances en réalité de pouvoir faire ce qu'on veut, que ce soit de devenir paysan ou de devenir journaliste ou peu importe. C'est juste que tous les individus dans la société doivent avoir le droit et la possibilité financière de pouvoir faire tout ces métiers-là. Et c'est là, en réalité, le vrai combat, pas tellement une notion de monter socialement pour chercher un prestige, parce que le prestige, on l'a bien compris, c'était une notion très bourgeoise.
Eh bien, merci tous les trois d'être venus aujourd'hui en direct dans Grand Bien Vous Fasse. Cette émission peut se réécouter quand vous voulez, où vous voulez, sur franceinter.fr. On se retrouve demain à 10h pour une émission consacrée aux flots forêts qui sont splendides dans cet automne, drapés de jaune, de rouge, d'oranger. On attend déjà vos itinéraires de promenade et puis aussi les coordonnées GPS de vos coins à champignons. Dites-nous tout sur l'appli de France Inter, ça restera entre nous.